السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا پہلے ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت معوذ بن حارث.
Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mu'awiz bin Harith. Il appartenait à la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Harith bin Rifa et sa mère se nommait Afra bint Ubaid. Mu'awiz était le frère de Mu'adh et Auf. Tous les trois avaient le même père et la même mère. Et on les nommait tous les trois les Banu Afra. Ibn Ishaq est l'unique chroniqueur à rapporter que Mu'awiz était parmi les 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Aqaba. Mu'awiz était marié à Yazid bint Qais. Deux filles sont nées de ce mariage. Elles se nomment Rubayy bint Mu'awiz et Umayra bint Mu'awiz. Mu'awiz avait accompagné ses deux frères Mu'adh et Auf lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, Mu'awiz, Mu'adh et Auf, qu'on nommait les Banu Ofra, et Abul Hamra, qui était leur esclave affranchi, avaient un seul chameau qu'ils utilisaient à tour de rôle. J'avais d'ores et déjà mentionné le récit suivant en évoquant Mu'adh, mais il est important d'en faire mention ici de nouveau à l'égard de Mu'awiz. Anas rapporte que le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qui ira voir quelle fin a connu Abu Jahl ?» Abdullah bin Masoud est parti et il a constaté que Mu'adh et Mu'awiz, les deux fils d'Afra, l'avaient frappé à coups d'épée et Abu Jahl était sur le point de rendre l'âme. Abdullah bin Masoud lui a demandé « Es-tu Abu Jahl ?» Ensuite, il a attrapé par la barbe, relate Anas. Abu Jahl lui a demandé « Avez-vous tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Ou il aurait demandé « Existe-t-il de peuple qui ait tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah a commenté sur ce hadith d'Al-Bukhari. Il explique que selon certains récits, Mu'adh et Mu'awiz Les deux fils d'Afra auraient mortellement blessé Abu Jahl et Abdullah bin Masoud, l'auraient ensuite décapité. L'imam Ibn Hajar, quant à lui, a présenté la possibilité qu'après Mu'adh bin Amr et Mu'adh bin Afra, Mu'awidh bin Afra aurait lancé une attaque contre Abu Jahl. Le deuxième calife a évoqué en ces termes la mort d'Abu Jahl. Il déclare, l'homme aime faire la fête et il pense que telle ou telle chose lui est avantageuse quand celle-ci est en fait la cause de sa destruction et de sa mort. Au jour de la bataille de Badr, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés, ils croyaient pouvoir vaincre les musulmans. Et Abu Jahl a déclaré, « Nous allons fêter cela et nous allons nous gorger de vin et nous allons retourner en ayant vaincu les musulmans. » Mais deux jeunes de Médine ont tué ce même Abu Jahl. Les mécréants de la Mecque avaient un grand mépris à l'égard des gens de Médine. Or, même le dernier désir d'Abu Jahl n'a pas été exaucé. Selon la tradition, si un chef était tué lors de la bataille, on lui tranchait le cou tout près du tronc, tout près de la poitrine. Le coulon indiquait en effet qu'il s'agissait d'un chef. Abdullah bin Masoud l'a vu alors qu'il gisait blessé et immobile. Abdullah lui a demandé « Comment vas-tu ? » Abu Jahl a répondu « Mon unique regret est que deux garçons de Médine m'ont tué. » C'est-à-dire les enfants des paysans qui travaillaient la terre l'ont tué. Aux yeux des Mécois, pareille occupation était méprisable. Et ils disaient que ces gens-là de Médine, ces paysans, ne connaissaient rien de la bataille et de la guerre. Mais c'était ces gens, voire c'était les enfants de ces gens, de ces novices dans l'art de la guerre qui ont tué Abu Jahl et qui ont réduit à néant son arrogance. Abdullah lui a demandé « Quel est ton dernier souhait ?» Abu Jahl a répondu que « Je souhaite que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. » Abdullah a répondu « Je n'exaucerai pas ton dernier vœu. » Et il lui a tranché le cou tout près du menton. Abu Jahl souhaitait que ce jour soit un jour de liesse pour lui, mais ce jour de liesse s'est transformé en jour de deuil pour lui, et il n'a même pas pu digérer ce vin qu'il avait consommé. Le jour de la bataille de Badr, Mu'awidh est tombé à martyr au combat. Abu Musafi l'avait tué. Le prochain compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b appartenait au clan Banu Mu'awiyah de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Ka'b bin Qais et sa mère se nommait Suhaila bint Aswad. Ubay bin Ka'b avait deux noms d'emprunt. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui avait donné le nom d'Abu Munzir. Et le calife Omar lui avait donné le nom d'Abu Tufail en raison de son fils nommé Tufail. Ubay bin Ka'b était de taille moyenne. Il avait les cheveux et la barbe de couleur blanc. Ainsi, il ne cachait pas son âge en se teignant les cheveux ou la barbe. Ubay bin Ka'b faisait partie des 70 compagnons ayant participé à la deuxième Bayra d'Aqaba. Ubay bin Ka'b savait lire et écrire avant même l'avènement de l'islam. Et après l'avènement de l'islam, il a eu l'occasion de consigner en écrit les révélations reçues par le saint prophète Mohammed Bissos à lui. Le saint prophète Bissos à lui avait établi un lien de fraternité entre Talha bin Ubaydullah et Ubay bin Ka'b. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed bissos lui avait établi ce lien de fraternité entre Ubay bin Ka'b et Saïd bin Zayd. Allah avait ordonné au saint prophète Mohammed bissos lui d'enseigner le saint Coran à Ubay bin Ka'b. Le saint prophète Mohammed bissos lui avait déclaré Ubay bin Ka'b est le plus grand qari de ma umma. Et on dit qu'il avait une grande connaissance du Saint-Coran, en raison de ce dire du Saint-Prophète Mohammed bissos lui, et il y aura d'autres récits à ce sujet plus loin. Hazrat Muslim Maoud radiallahu anhu relate, Ubay bin Ka'b faisait partie de ces quatre personnes à propos desquelles le Saint-Prophète Mohammed bissos lui avait déclaré « Ils sont les qari de Satouma ». C'est-à-dire, celui qui souhaite apprendre le Coran doit les apprendre de ces quatre personnes. Hazrat Muslim Maoud ajoute que l'histoire mentionne le nom de 15 scribes auxquels le saint prophète, peace be upon him, avait recours pour consigner le Coran. Il y avait Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Zubair bin Al-Awwam, Khalid bin Sayyid bin Al-As, Abban bin Sayyid bin Al-As, Hanzala bin Al-Rabi Al-Asadi, Muqib bin Abi Fatima, Abdullah bin Arqam Al-Zuhri, Shurahbil bin Hassana, Abdullah bin Rawaha, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Chaque fois que le saint prophète recevait une révélation, eh bien, il envoyait chercher une de ces personnes pour lui dicter le texte de la révélation reçue. Hazrat Muslim Maoud déclare, le saint prophète Mohammed bissos lui avait créé un groupe de personnes pour enseigner le Coran. Ils avaient mémorisé le Saint-Coran tout entier du Saint-Prophète Mohammed bissos lui et ils l'enseignaient aux autres. Ces quatre grands maîtres avaient pour mission d'apprendre le Coran du Saint-Prophète bissos lui et de l'enseigner aux autres. Et ils avaient sous leur supervision d'autres compagnons qui enseignaient le Coran aux autres. Voici les noms de ces quatre grands maîtres. Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudhaifa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Les deux premiers sont des émigrants et les deux derniers sont des Ansari. Abdullah bin Masoud était un travailleur manuel, un laboureur. Salim était un esclave affranchi. Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b étaient parmi les chefs de Médine. En somme, le saint prophète Mohammed bissos lui avait choisi des qari de toutes les couches de la société de Médine. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed bissos lui disait « Apprenez le Coran de ces quatre personnes. » Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudhaifa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Le saint prophète bissos lui disait que celui qui souhaite apprendre le Coran, eh bien qu'il l'apprend de ces quatre personnes. Abdullah bin Masoud, Salim et Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Ces quatre personnes avaient appris le Coran du saint prophète Mohammed bissos lui, où ils lui avaient récité le Coran et celui-ci avait corrigé leurs erreurs. Mais en sus d'eux, de nombreux autres compagnons avaient appris le saint Coran de la personne même du saint prophète Mohammed bissos lui. Anas bin Malik déclare que le saint prophète Mohammed bissos lui a dit à Ubay bin Ka'b, Allah m'a ordonné de t'enseigner la sourate Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Ubay bin Ka'b a demandé, est-ce que Dieu a mentionné mon nom? Le saint prophète a répondu oui. Sur ce, Ubay bin Ka'b a commencé à pleurer. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Selon un autre récit, Anas bin Malik relate, le saint prophète Mohammed bin Sassa, lui, a dit à Ubay bin Ka'b, Allah m'a ordonné de te réciter le Saint-Coran tout entier. Ubay bin Ka'b a demandé, est-ce qu'Allah vous a mentionné mon nom? Le saint prophète a répondu à l'affirmative. Sur ce, Ubay a demandé, le pourvoyeur des deux mondes a-t-il évoqué mon nom? Le saint prophète a répondu oui. Et Ubay avait des larmes aux yeux. Hazrat Muslim Maud a évoqué cet incident en ces termes. Il déclare, Abu Hayya Badri relate que lorsque la sourate Lam Yakun a été révélée dans son intégralité, eh bien, l'ange Gabriel a dit au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Allah vous ordonne d'enseigner cette sourate à Ubay bin Ka'b. Sur ce, l'envoyé d'Allah a dit à Ubay bin Ka'b, l'ange Gabriel m'a transmis l'ordre de Dieu de t'enseigner cette sourate. Ubay bin Ka'b a déclaré au envoyé d'Allah, Allah a-t-il mentionné mon nom? Quand le saint prophète a répondu à l'affirmative, eh bien, Ubay bin Ka'b a pleuré de joie. Après le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le calife Omar a répété cette phrase à maintes reprises. Une fois, du haut de la chaire de la mosquée Nabawi, il a déclaré que Ubay bin Ka'b est le plus grand des qaris. Lors de son voyage vers la Syrie, il s'était arrêté à Jabiya, un village dans les environs de Damas. Et dans son sermon, le calife Omar a déclaré « Celui qui souhaite apprendre le Saint-Coran, eh bien qu'il aille voir Ubay bin Ka'b. » Anas bin Malik relate « Quatre personnes avaient appris sous la direction du Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui le texte intégral du Saint-Coran. Ils étaient tous des Ansari. Il s'agit d'Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal, Abu Zayd et Zayd bin Thabit. Il s'agit d'un hadith tiré d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim Maud relate ceci. Voici les noms des Huffaz les plus connus parmi les Ansar. Ubadah bin Thabit, Mu'adh Mujammi bin Haritha, Fadala bin Ubaid, Maslama bin Makhalal, Abu Darda, Abu Zayd, Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Sa'd bin Ubada et Umm Waraqa. Le saint prophète Mohammed bin Sassa, lui, a déclaré « Abu Bakr est celui qui est le plus bienveillant à l'égard de ma Ummah. » Et Omar est le plus strict quant à l'application des préceptes de la religion, c'est-à-dire qu'il est très à cheval sur les principes. Et le saint prophète a déclaré « Othman est celui qui est le plus pudique ». Il a ajouté « Mu'adh bin Jabal dispose de la plus grande connaissance de ce qui est licite et de ce qui est illicite ». Et Zayd bin Thabit est celui qui dispose d'un plus grand savoir quant aux obligations. Et Ubay bin Ka'b est celui qui maîtrise le mieux la prononciation du texte du Saint-Coran. Ensuite, le prophète a déclaré, il existe un amin dans chaque Ummah, et l'amin de cette Ummah est Abu Ubaida bin al-Jarrah. J'avais mentionné Abu Ubaida bin al-Jarrah récemment. Après l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed bin Sassalou à Médine, Ubay bin Ka'b était son tout premier scribe. C'était lui qui consignait les révélations en écrit. À l'époque, le scribe n'avait pas pour habitude d'apposer son nom à la fin du texte qu'il avait écrit. Ce fut Ubay bin Ka'b qui avait lancé cette pratique. Par la suite, d'autres personnes ont suivi cette pratique, c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas le nom du scribe à la fin du manuscrit, on consignait uniquement la révélation. Ubay bin Ka'b a lancé cette pratique de consigner son nom au bas du texte et cette pratique est devenue courante par la suite. Ubay bin Ka'ab a mémorisé chaque lettre du Coran du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui avait lui aussi mémorisé ce texte. Et en voyant son engouement, le saint prophète, paix soit sur lui, portait une attention particulière quant à son enseignement. L'aura de la Nubuwa empêchait de grands compagnons de poser des questions au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais Ubay bin Ka'ab, quant à lui, posait ses questions sans la moindre hésitation. Cela ne veut pas dire qu'il posait des questions inutiles. Il posait ses questions dans le respect de la Nubuwa. Il n'hésitait tout simplement pas. En voyant son engouement, parfois le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le devançait. Et le saint prophète, paix soit sur lui, répondait à sa question avant qu'il ne la pose. Une fois, lors de la prière du matin, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait raté un verset. Ubay bin Ka'ab s'était joint à la prière en congrégation en retard. Après la salat, le saint prophète a demandé à la congrégation : l'un d'entre vous a-t-il noté quelque chose à propos de ma récitation ? Tout le monde était silencieux. Ensuite, il a demandé : Ubay bin Ka'ab est-il présent ? Ubay venait de terminer sa prière. Peut-être que le saint prophète avait commis cette erreur ou cet oubli lors de la deuxième rakat et qu'Ubay avait noté cela, quoiqu'il était en retard pour la prière. En tout cas, quand il a terminé sa prière, il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, vous avez raté tel ou tel verset. Vous avez raté ce verset, est-ce que ce verset a été abrogé ou est-ce que vous avez oublié de le réciter ?» Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu « Non, j'ai oublié de réciter ce verset. » Et en s'adressant à Ubay, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a ajouté « Je savais qu'hormis toi, personne d'autre n'aurait noté cela. » Ubay bin Ka'ab relate que j'étais dans la mosquée et un individu est entré et il a récité le Saint-Coran avec une prononciation qui m'a paru étrange. Un autre est venu et il a récité le Coran d'une manière différente. Lorsque nous avons terminé la salat, nous nous sommes présentés au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et j'ai dit au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, que celui-ci a récité le Coran d'une manière qui me semblait étrange. Et ensuite, le deuxième est venu. Et il a récité le Saint-Coran avec une prononciation différente de la première personne. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à ces deux personnes de réciter le Saint-Coran, tous deux l'ont fait, et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que leur prononciation était bonne. Ubay déclare que quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a rectifié mon opinion et qu'il a approuvé la prononciation de ces deux personnes, eh bien, j'étais fort embarrassé. J'ai ressenti un embarras que je n'avais même pas ressenti à l'époque de l'ignorance. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a constaté mon embarras, lorsqu'il a vu mon embarras sur le visage, eh bien, il m'a frappé à la poitrine. J'étais en sueur de la tête jusqu'aux pieds. C'était comme si je voyais Dieu dans ma crainte. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'a dit « Ô Ubay, Dieu m'a requis de réciter le Coran suivant une prononciation. Je lui ai demandé de faciliter la tâche de ma Ummah. Sur ce, il m'a répondu que je pouvais utiliser deux qiraats, c'est-à-dire deux prononciations pour le Coran. Je lui ai demandé de nouveau de faciliter la tâche de ma Ummah. La troisième fois, il m'a autorisé sept qiraats, c'est-à-dire sept prononciations différentes pour réciter le Coran. Et Dieu m'a dit que tu auras le droit de faire une requête de prière pour chaque réponse que je t'ai donnée à tes questions. » C'est-à-dire que l'ange Gabriel a donné ce message au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'Allah lui dit qu'il aura le droit à une requête de prière pour chaque question. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, déclare « Sur ce, j'ai prié, ô Allah, pardonne à ma Ummah où Allah pardonne à ma Ummah. Et la troisième prière, je l'ai réservée pour le jour lorsque toute la création, incluant Ibrahim, se tournera vers moi. Ubay bin Ka'b avait atteint une telle perfection dans la récitation du Coran que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui faisait réviser le saint Coran tout entier. L'année de son décès, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a récité le saint Coran tout entier. Et le saint prophète a dit à Ubay, « L'ange Gabriel m'a demandé de te faire écouter ma récitation du Coran. » Ainsi, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a récité à Ubay tout le Coran. Durant l'époque bénie du saint prophète, paix soit sur lui, Ubay enseignait le Coran à un persan. Et il lui enseignait le verset « Inna shajarat al-zaqoum ta'amul athim ». Eh bien, le persan n'arrivait pas à prononcer le mot « athim » qu'il prononçait comme « yatim ». Ubay en était fort inquiet. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est passé par là. Et il s'est arrêté en voyant l'inquiétude d'Ubay. Eh bien, dans la langue persane, il lui a dit d'énoncer les mots « bitarami d'athim » avec la lettre « zwa ». Lorsqu'il a suivi cette consigne, eh bien, il a pu prononcer le mot « athim » correctement. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Ubay, « Corrige sa prononciation. Enseigne-le d'après la prononciation de sa langue, afin qu'il puisse énoncer correctement les versets du Saint-Coran. Et fais-lui prononcer correctement ces lettres, Allah t'en récompensera. » Lors d'un de ses sermons, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait récité la sourate Barat, une sourate qu'Abu Darda et que Abu Dhar ne connaissaient pas. Durant le sermon, ils ont demandé à Ubay si cette sourate venait d'être révélée. Ubay leur a demandé par signe de se taire. Après la prière, quand ils rentraient chez eux, tous deux ont demandé à Ubay pourquoi il n'avait pas répondu à leurs questions. Ubay a répondu, « Vos prières sont parties à l'eau aujourd'hui, et ce pour une action des plus inutiles de votre part. » Sur ce, tous deux ont rapporté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui les paroles d'Ubay. Celui-ci a répondu qu'Ubay avait raison, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler lors du sermon. Ubay bin Ka'b déclare que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a demandé au Abu Munzir, sais-tu quel est le verset le plus important du Coran du livre d'Allah qui se trouve à ta disposition? Ubay bin Ka'b a répondu, Allah et son prophète savent le mieux. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a demandé de nouveau, ô Abu Munzir, sais-tu quel est le verset le plus grand du Coran? Le Coran, le livre d'Allah qui se trouve à ta disposition. Ubay bin Ka'b a répondu en citant le verset 256 du chapitre 2 du Saint Coran. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, m'a frappé à la poitrine et il a déclaré par Allah, je te félicite pour ta connaissance. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a apprécié sa réponse. Ubay a enseigné le saint Coran à Tufail bin Amr d'Aussi à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sur ce, Tufail lui avait offert un arc en cadeau. Ubay s'est présenté au saint prophète avec ce cadeau. Celui-ci lui a demandé à propos de sa provenance. Ubay a répondu, il s'agit d'un cadeau d'un élève. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a dit, retourne cela et à l'avenir évite pareil cadeau. De même, un autre élève lui avait offert un vêtement en cadeau. Et la même situation se répéta. C'est pour cette raison qu'il évitait entièrement cela, c'est-à-dire il évitait d'accepter des cadeaux pour avoir enseigné le Saint-Coran. Les gens de la Syrie apprenaient le Coran d'Ubay et ils prenaient aussi les services des scribes de Médine. Et en guise de salaire, il invitait ses scribes pour des repas. Or, jamais Ubay n'a accepté une seule de leurs invitations pour un repas. Le calife Omar lui avait demandé une fois « Comment est la nourriture en Syrie ?» Ubay a répondu « Je ne mange pas chez eux. Moi, je mange chez moi. » Ubay bin Ka'ab avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres azwats en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Lors de la bataille d'Uhud, une flèche l'avait atteint à sa veine, la veine qui irrigue sa tête, le dos, les mains et les pieds. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé un médecin qui a tranché la veine et qui l'a pansée de ses mains. Voici un récit sur la bataille d'Uhud, récit que j'ai mentionné dans le passé et que j'évoque de nouveau ici brièvement. Après la bataille, le saint prophète Mohammed lui a dit à Ubay bin Ka'ab d'aller voir quel était l'état des blessés. Il est arrivé auprès de Sa'd bin Rabi qui était grièvement blessé et qui vivait ses derniers moments. Ubay bin Ka'ab lui a demandé s'il avait un dernier message à offrir à ses proches. Sa'd a souri et il a répondu « J'attendais qu'un musulman passe par là pour que je puisse lui offrir mon message. Place ta main dans la mienne et promets-moi que tu transmettras certainement mon message. » Quel était son message ? Il lui a dit « Ô bon frère, transmets mes salutations aux musulmans et dis à mon peuple et à mes proches que le saint prophète Mohammed est le meilleur dépôt qu'Allah nous a confié et que nous l'avons protégé avec nos vies. Je pars maintenant et je vous confie la protection de ce dépôt. Ne flanchez point dans la protection de ce dépôt. » La zakat a été rendue obligatoire en l'an 9 de l'Hégire et le saint prophète Mohammed a envoyé des collecteurs pour récolter les aumônes dans les différentes provinces de l'Arabie. Ubay a été nommé collecteur des aumônes des Banu Bali, Banu Azhar et de Banu Sa'd. Une fois, un individu lui a présenté tous ses animaux et lui a demandé de prendre l'animal de son choix comme aumône. Ubay a choisi un petit chameau de 2 ans. Le donateur lui a demandé « Pourquoi prendre celui-là ? Il ne donnera pas de lait et il ne pourra pas porter personne. Prenez plutôt cette chamelle. Elle est grosse et jeune. » Ubay a répondu « Il n'en sera pas ainsi. Je ne pourrai pas contrer une directive du saint prophète Mohammed lui. Vaut mieux que tu m'accompagnes à Médine, qui n'est pas très loin d'ici. Nous irons voir le saint prophète Mohammed lui et nous accepterons son verdict. » L'autre était d'accord et il a accompagné Ubay à Médine avec la chamelle et il a tout relaté au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète a répondu que si tu souhaites offrir cette chamelle, eh bien tu pourras le faire. On va l'accepter et Allah t'en récompensera. C'est ainsi que l'autre a présenté la chamelle au saint prophète Mohammed lui avant de rentrer. Le travail de la classification des sourates du Saint-Coran et de la compilation du Coran avait débuté à l'époque d'Abou Bakr. Ubay était le superviseur de ce groupe de compagnons choisis pour ce travail. Il récitait le Coran et les gens consignaient cela en écrit. Étant donné qu'il s'agissait d'érudits compagnons, ils commentaient et discutaient aussi sur les versets du Saint-Coran lors de leur travail. Ainsi, ils sont tombés sur le verset suivant de la sourate At-Tawbah, où il est dit « ثُمَنْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ». Certains ont dit qu'il s'agissait du dernier verset révélé. Mais Ubay a déclaré « Non, le saint prophète Mohammed, peace be upon him, m'a enseigné 2 autres versets par la suite. » Il s'agit du verset qui précède l'avant-dernier verset de cette sourate. Lors de son califat, Omar avait lancé des centaines de projets qui étaient très avantageux, dont le système de la Shura. En effet, la Majlis Shura avait été établie à l'époque du calife Omar. Ce conseil réunissait d'illustres compagnons de parmi les Ansar et les Muhajirin. Ubay bin Ka'b y représentait la tribu Khazraj. Un certain Jabir bin Jubair relate ceci. Je m'étais présenté au calife Omar pour une affaire quelconque. À côté du calife Omar se trouvait une personne portant une barbe blanche et aux vêtements blancs. Il a déclaré, il se trouve en ce monde des provisions pour atteindre notre objectif ici-bas et dans l'au-delà. Et il s'y trouve aussi nos actions pour lesquelles nous serons récompensés dans l'au-delà. Jabir relate, j'ai demandé au émir des croyants, qui est cette personne? Le calife Omar a répondu, il s'agit d'Ubay bin Ka'b, le chef des musulmans. Abdurrahman bin Abd Kari relate ceci. Par nuit du Ramadan, je suis parti à la mosquée en compagnie du calife Omar bin Khattab. Dans la mosquée, nous avons vu les fidèles éparpillés, ça et là, en différents groupes. Certains priaient individuellement, certains dirigeaient d'autres fidèles dans la prière. Le calife Omar a déclaré, il serait mieux de les réunir tous sous la direction d'un seul qari. Ensuite, il les a réunis tous sous la direction d'Ubay bin Ka'b. Ils étaient en train d'accomplir des prières nawafil. Ubay bin Ka'b faisait partie de ses grands compagnons ayant entendu de nombreux hadiths du saint prophète Mohammed Pissas à lui. C'est la raison pour laquelle il servait de précepteur à de nombreux compagnons. Ses élèves comprenaient en majorité des compagnons du saint prophète Mohammed Pissas à lui. Les compagnons venaient écouter les hadiths de sa bouche. Omar bin Khattab, Abu Ayyub Ansari, Ubada bin Thamit, Abu Hurayra, Abu Musa Ashari, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Sahal bin Sa'ad, Thulman bin Thardiya venaient tous écouter les hadiths de la bouche d'Ubay bin Ka'b. Qais bin Ubada est venu à la rencontre des musulmans à Médine. Il a déclaré, je n'ai trouvé personne de plus grand qu'Ubay bin Ka'b. Les gens étaient réunis à l'heure de la prière. Le calife Omar était aussi présent. Il fut nécessaire de présenter quelque enseignement et après la salah, Ubay bin Ka'b s'est levé et il a présenté les hadiths du saint prophète Mohammed Pissas à lui. Et tout le monde écoutait tout lui avec engouement. L'aura d'Ubay a eu un grand effet sur Qais. Une femme est venue voir informer le calife Omar que son mari était décédé et qu'elle était enceinte. Ubay bin Ka'b répondait aussi aux questions de jurisprudence en tirant ses conclusions du Saint-Coran. La femme a relaté qu'au moment de la disparition de son mari, elle était enceinte et qu'elle avait accouché, mais que la période de son idda n'était pas encore terminée, c'est-à-dire la période d'attente qui est de 4 mois et 10 jours qu'une femme doit observer après la disparition de son mari. Eh bien, cette période ne s'était pas encore écoulée, mais qu'elle était enceinte et qu'elle avait déjà accouché au cours de cette période. Et elle a demandé si elle devait compléter la période d'attente. Le calife Omar lui a dit de compléter la période de l'idda prescrite pour une veuve. Par la suite, cette veuve s'est rendue auprès d'Ubay et elle s'est enquise également à propos de cette question de la période d'attente. Elle a informé Ubay à propos de la réponse du calife Omar et du verdict qu'il avait rendu. Ubay lui a demandé d'aller voir le calife Omar et de lui dire qu'Ubay déclare qu'elle pouvait se remarier et qu'elle n'avait plus besoin d'observer la période restante de l'idda. Et il lui a dit que j'étais présent si le calife Omar veut me parler. Cette femme est partie voir le calife Omar, qui lui a demandé de faire venir Ubay. Ubay est venu et Omar a demandé comment il était arrivé à ce verdict. Ubay a répondu qu'il s'était basé sur le Saint-Coran et il a cité ce verset. Ulatul ahmali ajaluhunna any yadarna hamlahunna. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Ubay a ensuite déclaré que toute femme enceinte et devenue veuve sera également comptée parmi celles-là. Et Ubay a déclaré que le Saint-Prophète était arrivé au même verdict. Et Omar a demandé à la femme d'agir en conformité à la consigne d'Ubay, en d'autres termes, que ce qu'il disait était correct. La maison appartenant à Abbas, l'oncle du Saint-Prophète, paix soit sur lui, était contiguë à la mosquée. Omar voulait agrandir la mosquée du Saint-Prophète et a demandé à Abbas de vendre sa maison afin qu'il puisse l'inclure dans la mosquée. Abbas a déclaré que cela n'était pas possible. Le calife Omar lui a demandé d'offrir la maison en cadeau, mais Abbas a refusé parce que généralement, il faisait les choses à sa manière. Le calife lui a demandé d'étendre lui-même la mosquée et que ce sera un grand acte pour le bénéfice de la Ummah. Et s'il devait agrandir la mosquée et y inclure sa maison, Abbas a répondu que cela n'était pas possible non plus. Omar lui a dit, « Eh bien, tu vas devoir accepter l'une de ces trois options. » Abbas a déclaré que je n'accepterai aucune de ces options. Ainsi, ils ont choisi Ubay bin Ka'b comme arbitre. Ubay a dit au calife Omar, « Quel droit avez-vous de prendre son bien sans son consentement ? Vous ne pouvez pas le lui prendre. » Omar lui a demandé s'il fonde sa décision sur le Saint-Coran ou sur un hadith. Ubay a déclaré qu'il s'était basé sur un hadith. Et ensuite, il a déclaré que lorsque le prophète Salomon avait construit le temple de Jérusalem, l'un de ses murs construit sur la terre de quelqu'un d'autre s'est écroulé. Le prophète Salomon a reçu une révélation indiquant qu'il devra demander la permission au propriétaire avant de construire sur ce terrain. En entendant cela, Omar s'est tu. Abbas était loyal et sincère, il avait prêté allégeance au califat et il s'est maîtrisé. Bien qu'il avait initialement refusé, cependant, il avait une disposition pieuse et vertueuse et il avait un grand sens de l'honneur pour la foi et un respect pour le califat. Quand le calife Omar a accepté la décision d'Ubay et qu'il s'était tu, Abbas lui a dit que très bien, je vais inclure ma maison dans la mosquée. À une occasion, le calife Omar a décidé d'interdire aux gens d'accomplir le Hajj Tamattu. Il existe en effet trois types de Hajj. Certains jeunes peuvent ne pas en être conscients. Le Hajj Tamattu est accompli en portant l'ihram de l'Umrah avant d'arriver à la Mecque. Les pèlerins accomplissent d'abord l'Umrah, ensuite ils sortent de l'état d'ihram. Ensuite, le 8 de Dhul-Hijjah, ils entrent dans un nouvel état d'ihram et ils effectuent le Hajj. Ceci est connu sous le nom du Hajj Tamattu. La forme la plus connue du Hajj est nommée Hajj Mufrid. Et le Hajj Kiran est celui pour lequel l'Umrah et le Hajj sont accomplis dans le même état d'ihram. Néanmoins, Omar a décidé d'interdire aux gens d'accomplir le Hajj Tamattu. Ubay lui a dit, « Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens d'accomplir le Hajj Tamattu. » Et le calife Omar a abandonné son idée par la suite. À une autre occasion, le calife Omar avait décidé d'interdire aux gens de porter des manteaux de Hira. Hira, qui était une ville située à environ 5 km de Koufa. La raison en était qu'on utilisait l'urine pour teindre ce tissu, ou peut-être qu'on utilisait l'urine d'un animal afin de décolorer le tissu. Ubay lui a dit, « Vous n'avez pas le droit d'interdire cela, parce que le Saint-Prophète Mohammed lui-même portait des vêtements de cette couleur et des manteaux de là-bas. » Et nous en avons également porté à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il n'y avait aucun problème à ce propos. En entendant cela, le calife Omar a dit qu'Ubay avait raison et il s'est tu. Lors du califat d'Omar, il y a eu un désaccord entre le calife Omar lui-même et Ubay concernant un verger. Ubay s'est mis à pleurer et il a déclaré « Dois-je être témoin de tout cela à votre époque ?» Omar lui a dit que telle n'était pas mon intention. Vous êtes libre d'obtenir un verdict du musulman de votre choix. Étant donné qu'il s'agit d'un désaccord entre nous, je ne rendrai pas de verdict. Vous êtes libre d'obtenir le verdict de n'importe qui. Car moi, je crois avoir raison. Ubay a donc proposé de demander à Zayd bin Thabit de juger ce différend. Omar a accepté et l'affaire a été présentée devant Zayd. Omar était le calife de l'islam, mais il a participé à l'assemblée de Zayd bin Thabit en tant que simple individu. Omar n'était pas d'accord avec la revendication d'Ubay. Omar lui a demandé « Vous avez oublié, essayez de vous remémorer ». Après avoir réfléchi quelque temps, Ubay a déclaré que « Je ne me souviens de rien ». Omar a relaté ce qui s'était passé. Zayd a demandé à Ubay quelle était l'épreuve qu'il avait pour soutenir son point de vue. Il a déclaré qu'il n'avait pas de preuve, mais qu'il pouvait tout simplement demander à l'émir des croyants de jurer, c'est-à-dire de lui demander de faire un serment qui dit la vérité. Il a dit de demander au calife, à l'émir des croyants, de faire un serment. Le calife Omar a déclaré, « Si je dois faire un serment, eh bien, je n'ai aucun problème à le faire. » Et la décision a été prise par la suite. Othman bin Affan avait établi une équipe de 12 personnes composées des Qurayshites et des Ansar pour compiler le Saint-Coran. Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit faisaient également partie de cette équipe. À l'époque d'Othman, il y a eu des désaccords dans tout le pays au sujet de la prononciation de certains termes du Saint-Coran. Le calife Othman a voulu y mettre fin. Et pour cela, il a souhaité écouter individuellement les récitations des compagnons. Et il a constaté des différences de prononciation entre Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Abbas et Mu'adh bin Jabal. En constatant cela, le calife Othman a déclaré que je souhaite que tous les musulmans prononcent le Coran de la même façon. Et parmi les Qurayshites et les Ansar, il y avait 12 compagnons qui maîtrisaient le Saint-Coran. Othman leur a confié cette tâche importante et il a nommé Ubay bin Ka'b comme le chef de cette équipe. Ubay radiallahu anhu récitait les paroles du Saint-Coran et Zayd bin Thabit retranscrivait ces paroles à l'écrit. La grande précision de la prononciation du Saint-Coran dont on dispose aujourd'hui est le résultat de la prononciation d'Ubay bin Ka'b. Utay bin Zamra a déclaré qu'il a demandé à Ubay bin Ka'b « Vous qui êtes les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, que vous est-il arrivé ?» Nous vous rendons visite de très loin afin que vous partagiez avec nous des nouvelles, des anecdotes, afin que vous nous appreniez quelque chose. Mais lorsque nous arrivons chez vous, vous ne nous accordez aucune importance et vous n'avez aucune considération à notre égard. Et vous ne nous accordez aucune importance. Sur ce, Ubay bin Ka'b a déclaré que je jure au nom d'Allah que si je reste vivant jusqu'au prochain vendredi, eh bien, je partagerai avec toi une information. Et après quoi, je me soucierai guère si vous me laissez vivre ou si vous me tuez. Le rapporteur déclare que lorsque je suis arrivé à Médine, eh bien, j'ai vu de grandes foules. Je me suis dit, que s'est-il passé? Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu ne résides pas à Médine? J'ai dit non. Il m'a dit, aujourd'hui, le chef des musulmans, Ubay bin Ka'b, est décédé. Il a déclaré par Dieu, je n'ai jamais vu pareille manifestation de la tribu As-Sattar de Dieu, hormis dans le cas d'Ubay bin Ka'b. C'est-à-dire, Dieu l'avait couvert d'une façon extraordinaire. Ubay avait dit qu'il dirait quelque chose, suite à quoi il n'était pas certain du sort qui lui sera réservé. Le rapporteur a relaté qu'il semblerait qu'Allah, le Très-Haut, l'a préservé de cet instant où il allait divulguer quelque chose qu'il n'avait pas envie de partager. Et Allah sait le mieux ce qu'Ubay voulait dire par cette phrase. Le rapporteur déclare que je n'ai jamais témoigné en faveur de quelqu'un d'autre pareille manifestation de l'attribut As-Sattar de Dieu. Ubay ibn Ka'b avait déclaré que je complète une lecture intégrale du Saint-Coran en 8 jours. Ubay avait un très grand amour pour le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, s'adossait à un des piliers de la mosquée Nabawi, qui était un tronc de dattier, pour prononcer son sermon. Mais par la suite, on lui a construit à Mimbar une chaire, et il s'était assis dessus pour prononcer son sermon. Et sur ce pilier a commencé à pleurer, et il y a eu des grincements. Le Saint-Prophète s'est approché du pilier, et il a posé sa main sur ce pilier, et il lui a fait une accolade. Et ce tronc a commencé à pleurer, tel un enfant qu'on prend dans les bras, pour le consoler jusqu'au point où ce pilier s'est apaisé. Par la suite, lorsque la mosquée a été détruite afin de la reconstruire, Ubay ibn Ka'b a pris ce même tronc. Ce tronc parce que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, s'y adossait. Il a porté chez lui ce tronc. Et ce tronc a pourri par la suite et le bois était infesté de termites et tombé en miettes. Mais il l'a gardé auprès de lui en raison de son amour pour le Saint-Prophète, Mohammed, paix soit sur lui. Ce récit a été rapporté par Musnad Ahmad bin Hanbal et une partie de ce récit et rapporté aussi par Al-Bukhari. Il y avait 6 qazis ou 6 juges parmi les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, Omar, Ali, Abdullah bin Masoud, Zayd bin Thabit, Abu Musa Ashari et Ubay bin Ka'b. Famra bin Jundub était un compagnon de grand renom. Lors de la Sola, après avoir récité le takbir, il faisait une pause avant de réciter la Sourate Al-Fatiha. Après avoir dit Allahu Akbar, il restait silencieux pendant quelque temps. Ensuite, il récitait la Sourate Al-Fatiha. Certaines personnes ont objecté quant à cette pratique. Famra a demandé l'avis de Ubay. Ubay a envoyé une réponse très courte en disant que votre pratique est en accord à la charia. Il n'y a aucun problème à faire cette pause. Cela est conforme à la charia. Et ceux qui soulèvent des objections à cet égard ne devraient pas le faire. Souhaïd bin Rafla avait participé à une bataille aux côtés de Zayd bin Shujan et de Suleiman bin Rabia. Une bataille qui s'est déroulée dans une région appelée Huzaib, où ils ont trouvé un fouet. Huzaib est une vallée des Banu Tamim. C'est un point d'eau qui se situe entre Qadsiya et Mauricia, environ 6 km de Mauricia. En tout cas, Souhaïd a ramassé le fouet. On lui a dit de les laisser là-bas, car il pourrait appartenir à un musulman. Il a répondu que je vais certainement le prendre. S'il reste au sol, les loups vont le manger et ils s'en nourriront. Vaut mieux que j'en tire profit. Quelques jours après, Souhaïd est parti accomplir le Hajj et il est passé par Médine en cours de route. Il s'est rendu chez Ubay et lui a relaté le récit concernant le fouet. Ubay a répondu, « Je me suis trouvé dans une situation similaire. J'avais trouvé 100 dinars à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui. » Ainsi, qu'il s'agisse de 100 dinars ou d'un simple fouet, chaque objet possède sa valeur et appartient à autrui. Écoutez la réponse du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ubay a répondu, le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'avait ordonné d'informer les gens pendant 1 an, c'est-à-dire d'en faire l'annonce que j'avais fait cette trouvaille. Une fois une année écoulée, il fallait garder en mémoire la quantité de pièces et les signes distinctifs de ces pièces et d'attendre une année de plus. Si une personne vous réclame cet argent ou cet objet, vous devez le lui rendre, sinon cet objet vous appartient. C'est-à-dire, il faut attendre 2 années entières. Il faut faire l'annonce pendant 1 année. Et pendant une autre année, il faut garder en mémoire la description de cet objet. Et si quelqu'un revendique cet objet, il faudra le lui rendre. Un jour, quelqu'un annonçait dans la mosquée qu'il avait perdu un objet. Ubay n'avait pas apprécié cela. L'autre a dit que je n'ai pas commis une action condamnable. Mais Ubay a déclaré qu'il faut quand même respecter la mosquée. Il ne faut pas y annoncer la perte d'un objet mondain, car cela porte atteinte à l'honneur de la mosquée. Il existe différents récits sur la mort d'Ubay. Certains disent qu'il était décédé à l'époque d'Omar en l'an 22 de l'Hégire. Selon un autre récit, il serait décédé en l'an 30 de l'Hégire à l'époque du califat d'Othman. Et ce récit est le plus exact, car Othman avait confié à Ubay la tâche de la compilation du Saint-Coran. Ubay avait deux fils, Tufail et Muhammad. Leur mère se prénommait Umm Tufail bint Tufail. Elle était originaire de la tribu d'Aws. Et on rapporte aussi que Ubay avait une fille prénommée Umm Amr. Ici se terminent les récits sur Ubay bin Ka'b.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر